Amis de Radio Silence, bonjour. Nous sommes le lundi 22, je crois, novembre. Vous écoutez Radio Silence, c'est Flash sur le monde par Élise Mbok. Je vais parler rapidement de l'élection présidentielle, enfin comment on va dire, de la campagne. On n'est pas encore à l'élection. La campagne présidentielle française, rapidement, parce que franchement, il est grand temps que tout le monde se déclare et comme ça tout est clair et on sait où on va. De toute façon, ce n'est plus qu'un secret de polichinelle pour Éric Zemmour qui, en plus, annonce un meeting le même jour que Jean-Luc Mélenchon, le 5 décembre. Et il le fait de façon vraiment frontale, puisque Jean-Luc Mélenchon l'a annoncé avant lui. Et lui, bah, le jour d'après, il l'annonce aussi depuis Londres, je crois, où il était dans un voyage assez mouvementé. Il annonce qu'il fera aussi meeting le 5 décembre. Et là, ça sera de mano à mano. On verra qui y aura plus de. Comment on va dire, de gens qui viendront écouter et voir. Donc, ça sera un baromètre très clair qui va défier tous les sondages. Et donc, c'est pas mal vu tout cela de façon stratégique. Voilà, donc le 5 décembre, je crois qu'il va enfin se déclarer parce que là, il est déjà candidat. Mais il vaut mieux que les choses se clarifient quand même. Et en parlant de cela, il faudrait que la Constitution ou je ne sais pas quoi se mette quand même un peu d'accord sur les délais de déclaration de candidature. Disant cela, je pense notamment au président Macron qui a utilisé la réunion avec la réunion, la conférence, je ne sais pas comment ça s'appelait, avec les maires de France pour faire un peu, voyez un peu, une forme de pré-campagne. Campagne qui ne dit pas son nom, puisqu'à l'issue de cette séance, 600 maires, quand même, se déclarent, ont déclaré qu'ils allaient voter pour le président sortant. Bon, c'est quand même fort de café, parce que ce n'était pas un meeting de campagne, c'était une réunion de travail, si on peut pas, si on peut dire ainsi. Et voilà, c'est pareil, il faudrait qu'il y ait. Comme ça, pour pas que ceux qui sont en place traînent un peu, qu'il y ait un moment où on dise, bon, passé ce temps-ci, vous n'êtes plus candidat, ben, qu'il y ait un peu de clarification là-dessus, parce que, bon, on va dire, c'est l'avantage aux sortants. Laissons tomber, on n'en parle plus, mais ça sera intéressant de voir le 5 décembre le match entre. Parce que là, du coup, c'est un match entre. Et Éric Zemmour, apparemment, il aime les matchs entre lui. Et Jean-Luc Mélenchon. Bon, les défis, pourquoi pas, hein. Il a une façon, Éric Zemmour, comme ça, de faire campagne à l'anglo-saxonne. Vous voyez, c'est vraiment paf de face. On n'oblique pas. Et ça peut, pas ça peut, ça surprend beaucoup l'hypocrisie française. Parce que les Français, vous savez, on est hypocrite. C'est l'hypocrisie qui caractérise le français. Vous voyez, il dira jamais en public ce qu'il pense, et s'il le dit, c'est pas vraiment ce qu'il fera. Vous comprenez que pour un peu, voilà, le français, il est très hypocrite et il ne supporte pas le parler vrai, le franc parler. Une fois que vous êtes dans une franchise de parole, vous voyez le français tout de suite, il perd pied, il commence à sortir des phrases moralisatrices, quelle morale il ne suit même pas. Donc c'est assez intéressant. Et moi, je suis Zemmour. Je suis Zemmour pour le moment un peu plus que. Je ne suis Jean-Luc Mélenchon parce que Jean-Luc Mélenchon, il a pris beaucoup d'avance et peut-être que, voilà, ça n'a pas suivi bien. Et donc, lui, il est un peu gêné aux entournures. Bon, heureusement, il sort son programme et à un prix très intéressant. Tout le monde peut. Mais bon, le programme, ça commence. Bon, c'est bien. Mais je crois que ça va. C'est une phase qui va prendre toute son ampleur à partir de janvier. Là, c'est un peu trop tôt, on a entendu. Et puis après, vous savez, les électeurs. Ils ont parfois tendance à oublier. Sur le coup, oui, moi je suis d'accord avec ce qu'il dit. Après, bon, on peut oublier, donc il faut marteler. Au bout de 6 mois, un peu, on est un peu fatigué, mais il y a quelqu'un qui a dit que toute communication était tautologique, donc il faut se répéter. La preuve, Éric Zemmour, je ne sais plus dans quel. Vous regarderez les informations sur Google, sur quel média, il revient sur la question. Qui lancinante, qui. Enfin, je veux dire, ça tient tellement à cœur à la personne que il est obligé d'en parler comme le préambule de son programme, c'est l'immigration. Et là, il a redit qu'il fallait couper toutes les aides sociales aux étrangers et les réserver uniquement aux Français. Donc c'est un peu du, je sais pas si c'est pas du péténisme ça, mais bon, peu importe, mais du nationalisme pur et dur, je vais pas dire autre chose. Bon, et puis après pour, il sous-entend que les étrangers qui ne travailleraient pas, parce qu'il prévoit un peu quelque chose pour ces étrangers, pour ceux, pour les salariés, donc ça comprend. Les étrangers, donc les gens qui ont des cartes de 10 ans et des cartes d'un an, donc et de 5 ans, il paraît qu'il y a 4 ans, 3 ans, il sous-entend que ces gens-là vont gagner un peu plus, mais ils seront à la merci du chômage, c'est-à-dire que si vous ne travaillez pas, s'ils ne travaillent pas pendant une certaine durée, ben, ils seraient susceptibles d'être expulsés. Bon, c'est. Dit comme ça, c'est facile, mais ces gens-là, ces étrangers qu'il appelle étrangers, il faut bien qu'ils sachent qu'ils ont des familles. Alors, ça ne sera pas seulement le travailleur qu'on va expulser, il faut expulser toute la famille. Et là, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire. J'ai envie de dire, je sais que M. Zemmour, il est très fort pour la répartie, la preuve, quand il dit que. Christophe Lagarde est vraiment là où il doit être, c'est-à-dire au centre, c'est-à-dire dans le néant, c'est de la répartie. Bon, moi, ce que M. Christophe Lagarde a dit, je trouve qu'on en a fait un peu trop. C'est une blague, une mauvaise blague, mais sans plus, moi, Christophe Lagarde, il n'est pas candidat. Donc voilà, ça ne prête pas à conséquence. Ça ne prêtait pas à conséquence. Sauf que il faut répondre, il faut répondre. Il y a eu le Et les journalistes ont fait, enfin les journalistes ont fait tout un tabac là-dessus, donc il faut répondre. C'est le jeu. Et j'ai envie de dire quand même sur cette question sur l'immigration que premièrement, c'est une question qui relève de la police des frontières et de la politique des visas de la France à l'étranger. Laquelle politique des visas fait que les petits jeunes, les adolescents, donc Éric Zemmour a parlé en termes, on a dit insultants, assassins et tout, bon, c'est-à-dire un peu comme Lagarde l'a traité lui, comment est-ce qu'ils arrivent? C'est la politique des visas. Ils viennent, ces jeunes-là. Moi, j'avais écrit un livre que vous trouverez chez. Amazon, s'il existe toujours, qui disait sur l'immigration, tous les chemins mènent à Rome, un peu c'était ça, mais je disais que tous les chemins mènent à l'intégration, parce que je disais même que tous les chemins mènent à la nationalité française, parce que ces jeunes qui arrivent, ils viennent accompagnés par un adulte. Après, cet adulte les dépose quelque part devant une officine de. Moi, je suis loin là, au Cameroun, j'ai la mémoire qui, qui flanche. Vous voyez? Et puis, ils sont récupérés ainsi. Et ils ne sont pas des errants. Ils ne sont pas en situation d'errance, en fait. Mais on les embarque comme ça, on les place comme ça, et puis après, ça c'est la politique des visas, ça c'est la politique de la police des frontières. Monsieur Zemmour ne peut pas en faire un sujet de campagne, d'autant plus que derrière aussi, en supprimant les aides sociales, on rentre aussi dans le stade des coopérations d'État. Et ça, c'est la question de la coopération qui va se voir donc au sein de ces ministères. Ce n'est pas une question qu'il peut régler en amont, même si il souhaite, on va lui poser des questions, il faut qu'il dise des choses, mais il ne faut pas qu'il dise des choses qui sont d'abord en dehors de tout ce qu'on appelle la pragmatique et qui en politique s'appelle la ruelle politique. Donc, il ne va pas échapper à ça. Bien sûr, il dit qu'il est pas, il se soucie pas. Il a dit de la gauche, il a dit je sais plus où c'est les lanceurs d'alerte ou les leaders d'opinion ou les gens qui font l'opinion, tout ça. Bref, il se soucie de personne. Il fera ce qu'il a à faire. Bon, péténisme, ça marchera pas non plus parce qu'il y a des contre-pouvoirs, Monsieur Zemmour. Il y a des contre-pouvoirs et vous le savez plus que tout, mieux que quiconque, puisque vous étiez d'ailleurs un contre-pouvoir en tant que moi, j'aime pas le mot polémiste, hein, commentateur, ou je sais pas comment dire, journaliste et éditorialiste, tout ce qu'on veut. Donc, vous étiez commentateur, vous étiez de la vie, et vous ne pouvez pas faire comme si les contre-pouvoirs, vous allez les passer en pâte et profit. Non, ça peut pas aller. Du coup, soit il y a. On va vous traiter de menteur, puisque vous savez très bien de quoi il est question. Soit, il va falloir un peu plus préciser les choses à ce niveau-là. Vous ne pouvez pas faire fi de la justice, par exemple, qui intervient lorsque vous allez vouloir expulser les familles des étrangers qui ne retrouvent pas du travail rapidement à votre goût. Ça peut pas marcher. Bon, après tout, bon, c'est la campagne. Moi, je suis pas candidate, mais je suis obligée en qualité de leader d'opinion, de sensibiliser les gens qui m'écoutent, notamment les jeunes, parce que ça c'est le public que j'essaye de sensibiliser depuis, puisqu'il n'est pas assez sensibilisé. Et j'ai retenu plutôt, et peut-être que M. Zemmour peut s'en inspirer, j'ai retenu ce que M. Jules Ferry a dit. Je ne sais même plus si Jules Ferry ou Luc Ferry, moi je confonds tout le temps, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, et qui a dit que nous payons les erreurs de 30 ans d'errance parce que pendant 30 ans, les politiques n'ont pas fait le travail. Donc au bout de ces 30 ans, il est évident que les gens vont se recroqueviller sur l'immigration pour trouver comme ça un bouc émissaire à leurs questions qui sont restées sans réponse depuis 30 ans. Donc, et ça, il a précisé que c'était à tous les niveaux. Donc, il ne faut pas se focaliser sur l'immigration. Il faut voir comment la société tout entière dysfonctionne. Moi, je pense ici au cas du ministre. Du ministre, du Premier ministre Fillon, qui est passé encore ces jours-ci récemment pour le travail au noir de sa femme en tant qu'assistante parlementaire. Vous savez bien que ce scandale avait abouti à l'éviction, je crois, de 100 parlementaires qui employaient leurs enfants, parfois des mineurs. Ah, c'était des choses inadmissible, un élu, un député, je sais plus, du 9-3, avait un enfant mineur qui était assistant parlementaire. Moi, je m'en souviens très bien de cette histoire d'assistante parlementaire parce que je suis allée postuler quand j'étais plus jeune au conseil général de l'Isère. Et j'étais au Parti socialiste à l'époque. J'ai voulu être assistante parlementaire de Monsieur du ministre, l'ex-ministre de la Coopération. Vous voyez, le monde est petit, hein. On se retrouve, Christian Noussy. Alors pour moi, bon, quelque part, le fait qu'il avait été la Coopération, ça m'a paru aller de soi, et d'autant plus d'ailleurs que c'est le secrétaire de la section de Villefontaine qui m'avait dit, ben viens, Christian Noussy a besoin. Donc pour lui, enfin, on était bien. Alors je suis allée à l'entretien d'embauche. Il n'était pas le seul, je crois qu'ils étaient trois à en vouloir, des assistants parlementaires. On devait travailler, on devait être un couple qui devait travailler pour les trois. Bon, j'avais déjà mon doctorat depuis 2 ou 3 ans et j'étais avec des petits jeunes beaucoup moins qualifiés et tout et tout. Bon, j'ai passé l'entretien et à la fin, bah, j'ai rien eu, vous voyez. Donc, franchement, le travail d'assistante parlementaire. Par la suite, j'ai vérifié, c'est un travail qui est confié aux maîtresses, pardon, aux épouses, pardon, épouse et concubine, et puis accès à la famille, hein, les enfants, les cousins, les cousines, l'ami de la cousine, on ne peut pas. Voilà ce qui dysfonctionne, par exemple, dans ce que Monsieur Ferry dit, Luc Ferry, on ne peut pas. Faire comme ça, mettre à la disposition des parlementaires une enveloppe pour que ces parlementaires qui sont déjà suffisamment payés, qui ont déjà des enveloppes et des avantages, embauchent des membres de la famille. Donc ça, c'est des conflits d'intérêts qu'il faut empêcher. Ça dysfonctionne. Et d'une manière générale, c'est toute la société qui dysfonctionne comme cela. Ainsi que Pierre Bourdieu l'avait dit, à la reproduction des élites et de la noblesse d'État. Donc, comment on fait pour couper, enfin remettre l'ascenseur social, comme on dit, en route, et couper ces effets de reproduction qui n'auraient pas pu faire en sorte que Madame Hidalgo, qui est candidate, moi j'étais surprise d'apprendre qu'elle vient du monde ouvrier, franchement, là je tombe des nues, un peu comme Trier-Vallard, qui est à la une parce qu'elle, voyez où on en est en termes de moralité, elle n'arrête pas de parler de son ex de président, qui pourtant en ce moment est avec une autre personne, et ça va comme ça. Nous sommes là, il n'y a pas de limite, maîtresse et concubine au même niveau, on mélange tout. Et Madame Hidalgo, moi quand j'apprends, je suis prise de sympathie pour elle depuis que j'ai appris qu'elle venait d'un monde ouvrier, franchement, chapeau madame, parce que vous êtes arrivée au sommet de l'État. Merci de Gaulle, merci de Gaulle, dans l'esprit, parce que bon, il y a d'autres choses, mais ça, bon, on est des femmes. Hein. Il faut un peu élever le débat à ce niveau-là. Comment on casse la machine à reproduire les élites? Enfin, peut-être pas la casser, mais il faut essayer de réfléchir à ça. Comment on fait en sorte que cette machine-là n'écrase pas tout le travail qui est fait par ailleurs pour l'intégration républicaine des autres? On ne réfléchit pas à ces niveaux-là, on vient réfléchir à des petits niveaux, de l'autre qui mange mon pain et tout, des allocations familiales. Mais qu'est-ce que c'est? Monsieur Zemmour dit, oui, mais c'est parce que ça obère la compétitivité des entreprises françaises. Ben n'importe quoi, pardon. Rien du tout, puisque le déficit d'industrialisation de la France. Le déficit même d'innovation, pensez les années glorieuses de Valéry Giscard d'Estaing, où les Français étaient au top et créaient des choses, le Concorde. Les déficits même de soutien aux créateurs et de soutien à ces innovations audacieuses, il y a plus là comme philosophie. Il y a juste des espèces de commissions qui se mettent en place pour vous dire comment faire un business plan pour une entreprise et tout et tout. C'est facile de parler, c'est facile, mais il faut venir le faire. Donc il faut accompagner les entrepreneurs, les preneurs de risques sur le terrain et voir ce qui ne va pas et les aider et non pas organiser ces parlottes, ces grandes parlottes qui n'aboutissent pas à grand-chose, sauf à payer précisément ceux qui sont là pour vivre sur les plus fragiles. Donc, élevons le débat. On dit que Madame Hidalgo, il y a beaucoup de métaphores qui sont intéressantes. Bon, ça, on n'est pas fait pas en cours. Hein. On dit que de communication. On dit que Madame Hidalgo, c'est quelqu'un qui veut, qui sur pilotage, qui continue à piloter un avion dont le tableau de bord est éteint. Ça, c'est l'avion parti PS qui n'a plus de programme et tout. Mais elle maintient le cap alors qu'on lui demande d'arrêter de sortie de l'avion. Je ne sais pas ce qu'on lui demande exactement. Soit elle saute de l'avion, je ne vois pas comment. Il faut d'abord qu'elle le dépose, cet avion-là. Et moi, j'ai envie de dire, tout en étant vraiment très circonspect hein, sur la force de la candidature de Madame Hidalgo, pas pour sa personne, mais pour beaucoup d'autres raisons. Entre autres, il paraîtrait que le bilan à Paris n'est pas si convaincant que cela. Ben, à partir de là, c'est plié. Mais chacun sa chance, mais ce que j'ai envie de dire, quand elle dit qu'elle va jusqu'au bout, je la crois, parce qu'elle est fille d'ouvrier. Si elle vient du monde ouvrier, oui, la détermination, c'est clair. Mais maintenant, si elle est réaliste, la réelle politique, ben, elle peut arrêter, pas parce qu'elle ne peut pas arriver à faire atterrir cet avion, parce que c'est à cela qu'on reconnaît un vrai pilote. C'est pas quand le tableau de bord indique tout bien, c'est quand le tableau de bord est éteint que le pilote se révèle, voilà, dans son exceptionnalité, comment je vais dire, et la prouesse personnelle. Donc la métaphore est mal choisie, parce que on n'a pas besoin de tableau de bord à ce moment pour être un pilote expert. On peut faire des choses et des miracles. Mais c'est vrai que si c'est pour dire que le PS, comme M. Mélenchon avait dit, c'est un astre mort, oui, programmatique, mais peut-être pas, il y a le temps, il y a le temps. Est-ce que Mme Hidalgo est le bon candidat, n'est pas le bon candidat? C'est à elle-même d'en juger, de juger si sa méthode va bien ou pas. Mais franchement, chapeau, madame, parce que de là où vous venez, ben, bravo. Puis, après, je ne suis pas là pour donner les points. Hein. Je vois que Pécresse, elle aussi, elle a la niaque. Elle aussi, elle est déterminée. C'est les Républicains. Franchement, les Républicains, c'est comme le PS. On ne sait pas exactement c'est quoi le programme. Puisque de toute façon, si le ministre Luc Ferry a raison, et il a raison, de dire que ça, ce sont les insuffisances depuis 30 ans qui créent déjà tout ce malaise et tout ce bazar, y compris polémique, bah, c'est parce que et les partis de gouvernement, c'est-à-dire le parti de Madame Hidalgo, le parti de Madame Pécresse, ils n'ont pas fait le job, tout simplement. Et quelque part, ils devraient être disqualifiés d'office, mais c'est une élection présidentielle, il faut qu'il se présente, parce qu'un parti politique, il ne se présente pas aux élections présidentielles. C'est pour cela d'ailleurs que Mme Marine Le Pen aussi est là. C'est la catastrophe, c'est la catastrophe. Il n'a même plus, il n'a plus de raison d'être. C'est un peu comme le centre, hein, et Éric Zemmour, quand il dit que c'est le néant, il n'a pas trop tort, parce que M. Bayrou est rallié, là, vous savez, c'est terrible. Donc, je termine. Amis de Radio Silence, vous avez écouté Flash sur le monde par Élise Mbock. Je vous dis, portez-vous bien et bonne campagne.